Donc de nouveau, nous avons temps maintenant pour des retours d'expérience. Comment c'était, qu'est-ce qui s'est passé, quelles sont vos conclusions, voilà, c'est un peu comme des explorateurs. Hein. Qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que vous avez remarqué. Voilà, super intéressant. Hein. Dans la dynamique de groupe, ces retours-là sont super importants. Et aussi des questions éventuellement voilà, sur le discours, quoi, que ça peut vite nous mener loin. Ou sur les instructions, là, s'il y a quelque chose. Surtout si il y a quelque chose qui vous paraît incompréhensible ou incohérent. De manière à ne pas rester coincé ou en contradiction avec ce que vous avez déjà entendu avant, ou même une contradiction dans ce que j'ai dit. Comment est-ce qu'on fait avec deux choses qui n'ont pas l'air d'aller ensemble? Voilà, parce que ça bloque ça. Donc ça, il faut articuler les contradictions. Des retours, ce sera intéressant aussi de savoir qui a remarqué à certains moments qu'en changeant de manière de voir, hein, vous avez bien vu qu'on est resté avec la respiration, mais on la regardait avec une perspective, un narratif différent, une manière d'expliquer la respiration qui changeait. Est-ce que ça a changé quelque chose dans l'expérience de votre moment de méditation? Oui, Corinne.
La respiration qu'on vient de faire, pour moi, ça a été la plus riche, la plus forte que je vis là, aujourd'hui. Et puis je vais quand même. Ça aussi, ça me rage, ça me donne.
Eh bien, ça fait partie le sentier octuple. La parole juste, c'est aussi dans la mesure de nos possibilités émotionnelles et quand on se sent capable, c'est de ne pas laisser dire, c'est de confronter la parole de l'autre. Parce que c'est comme ça qu'on empêche la souffrance de se construire. Et donc, voilà. Et normalement, la pratique de la méditation nous permet aussi de pouvoir absorber plus d'émotions sans être déstabilisé. Hein, quand notre pratique, que ce soit la méditation ou notre pratique spirituelle, doit peu à peu nous permettre d'embrasser toutes les émotions du monde. Et on peut prendre comme exemple Mère Teresa, par exemple, qui a été magnifique dans la capacité d'aller toujours plus loin dans ce qui est l'horreur en fait, hein, parce que Calcutta à l'époque et toujours maintenant en fait c'est vraiment très 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 dur, hyper injuste, et elle était elle-même victime de grandes injustices et en danger de mort, et de quand même elle incarnait quand même, je vais dire, la bienveillance, la bonté avec beaucoup de sourire. Donc voilà, c'était que ça, son approche, l'histoire qu'elle a construite pour pouvoir aller vers là fonctionnait bien. Et donc c'est à nous de construire une histoire dans laquelle confronter la parole raciste, par exemple, qui on sait est créatrice de souffrance, fait partie de notre chemin spirituel. Et il faut trouver sa manière. Mais c'est une question... oui, la compréhension de la méditation comme pouvoir... être libre des circonstances extérieures et du coup être non interventionniste, à mon avis, n'est pas une compréhension noble sentier octuple. Donc, de gérer ses émotions, rentrer en soi, rester spacieux, même si à l'extérieur les conditions sont de destruction, je ne pense pas que c'est une mauvaise compréhension du sentier octuple. C'est un mauvais usage de la méditation. Une mauvaise compréhension de la notion de prendre refuge qu'il y a dans le bouddhisme aussi. De prendre refuge en soi et du coup de ne plus être actif dans le monde. C'est pouvoir trouver la sécurité en soi pour aller monter au front.
Moi, je suis tout à fait d'accord avec votre point de vue et tout. J'avais juste une petite remarque et après je reviens de ce qu'on est en train de parler. La différence, selon moi, entre philosophie et bouddhisme, c'est philosophie, ça reste théorique et bouddhisme, c'est une manière de vivre. C'est ça un peu la différence, je trouve. Ça à part. Maintenant, je reviens à ça, à ce qu'on était en train de dire. Le problème pour moi, c'est un peu, je veux bien être compatible. Montrer ma compassion avec tout le monde, essayer de comprendre, de mettre moi-même dans la situation, est-ce que moi j'aimerais qu'on me dise des choses comme ça? Donc j'évite tout ça, là, voilà. Après, est-ce qu'on ne peut pas savoir ce que le mec il ressent quand on lui dit quelque chose? Même si je m'engage à défendre le bouddhisme, si tu veux, je ne sais pas comment il va le prendre. Il peut être vexé après. Parce que lui, il est convaincu que ça, son point de vue, c'est le correct. Et moi, je suis convaincu que le bouddhisme, il est correct. Donc là, qu'est-ce qu'on va avoir? Ça, je trouve. Et c'est ça un peu le.
Mais je pense qu'en fait, l'idée, ce n'est pas de défendre le point de vue du bouddhisme, mais de sentir quand la parole de l'autre, par exemple, quand il y a besoin de dire, écoute, moi, dans la manière dont tu me parles, je ne me sens pas juste. Par exemple, je me sens agressé, par exemple. Tu vois?
Oui.
Bon, eh ben ça, c'est important de le dire. Et pas de trouver une manière de gérer son émotion, là. C'est important de donner l'heure exacte à l'autre. Ou si l'autre, par exemple, crée de la souffrance à une tierce personne, à une troisième personne, c'est
Ah,
aussi
je vais
important.
défendre la
Voilà.
pierre.
Voilà, tu vois, c'est d'aller lui dire, écoute, je ne suis pas d'accord avec la manière dont tu fais.
Voilà,
Et
d'accord.
voilà, et c'est pas, voilà, c'est sentir toujours avec les quatre nobles vérités ce qui construit de la souffrance et faire ce qu'on pense être le plus avisé pour ne pas laisser cette souffrance se construire.
Parce que je continue, si vous me permettez encore 2 secondes là-dessus, imagine que tu rencontres, et on en rencontre tous les jours, hein, alors en tout cas moi, hein, qui restent têtus, quoi. Tu essayes de parler avec eux et ils restent têtus. À ce point-là qu'à un moment donné, ça me donne tellement d'énergie négative que moi je me sens plus bien dans ma
Oui,
peau.
voilà.
Pas
Mais
que je commence
oui,
à
bien sûr,
hésiter
bien
de
sûr.
ma foi, hein,
Oui.
mais que tellement de négativité sort d'un mec ou d'une personne que moi je me sens plus
Mais
bien.
là, je pense
Alors
que.
là, est-ce que je dois rester plein de compassion ou est-ce que je dois dire barrez-vous, hein,
Mais
moi je me
tu peux rester plein de compassion. Tu peux rester plein de compassion. Mais on verra la compassion vraiment, parce que là, on va pas se focaliser sur la compassion. Mais toutes ces questions-là vont venir. Je ne sais pas si tu seras là la semaine prochaine, mais toutes ces questions-là vont venir sur la semaine prochaine. Mais ici, dans ce cas-ci, être plein de compassion, c'est être plein de compassion pour toi aussi. Et si ça construit de la souffrance, tu t'éloignes. Hein, parce que tu n'es pas obligé d'aller jusqu'au bout, parce que tu vois, tu t'éloignes et tu peux rester plein de compassion pour lui, sachant qu'avec une tournure d'esprit pareille, la souffrance est vécue dedans. Parce qu'une tournure d'esprit aussi fermée fait souffrir celui qui est habité par cette tournure d'esprit. Donc il y a toute une compréhension à avoir qui permet de ne pas devoir quitter la compassion sans forcément devoir aller jusqu'au bout pour convaincre l'autre que son point de vue est néfaste pour lui et pour les autres. On n'est pas, c'est pas du tout l'idée, en fait.
Ah non.
Mais on y reviendra, Darwin.
Je peux juste rajouter là peut-être une chose. Est-ce que tu sais, cette situation, c'est aussi c'est une question de contrôle, en fait, au sens que, du coup, dans le bouddhisme, dans la méditation, aussi on apprend qu'on ne contrôle pas tout à fait toute la réalité, en fait. Et une situation dure comme ça, le racisme, des gens qui nous agressent, en fait, ça nous met en face de cette fait que, en fait, tant qu'on peut s'aimer, on ne peut pas forcément tout contrôler autour de. On ne peut pas faire que le monde s'aime. La nature comme ça, c'est. Je sais pas, en pratique,
Oui.
comprendre le. Ouais,
Ben, c'est-à-dire,
sens.
Après, je voudrais bien qu'on quitte la compassion et qu'on revienne à l'expérience qu'on vient de mener. Mais là, donc, dans ce cas-ci, l'idée, c'est vraiment de soit rester avec son narratif. On voit un narratif en face qui est un narratif de racisme. On sait que ce narratif de racisme construit de la souffrance. On est confronté à ce narratif. Nous, on en a un qui est très différent, qui est plus d'inclusion, par exemple. Eh ben, à ce moment-là, nous, on va exprimer notre narratif, mais aussi, ce n'est pas pour changer le monde. Ce n'est pas pour arriver à un résultat où tout le monde pense comme nous. C'est juste parce que nous, pour être fidèles à nous-mêmes et à nos valeurs et à ce qu'on pense et à ce qu'on sent juste, on se sent obligé d'exprimer à l'autre ça, et avec bienveillance, dans le sens où lui, ça peut lui amener des informations qui le détendent, parce que le racisme est une situation intérieure très tendue. Donc ça va être sans forcément être là à chercher et à attendre de résultats. Voilà, mais c'est aussi cette recherche de résultats, ça viendra dans les autres discussions. Mais là, j'aimerais bien avoir des retours de qu'est-ce que ça a fait de, si ça a fait quelque chose, de changer de manière de voir la respiration. Est-ce que ça a fait quelque chose pour... Oui. Oui, vas-y Véronique, pardon. Oui.
Ça a impacté vraiment ma propre méditation, les trois étapes. C'est-à-dire, à partir du moment où tu démarres en disant que je respire, j'ai le sentiment, je veux dire je, hein, que je respire, c'est mon organe qui respire, c'est mon poumon qui respire. Et à un moment donné, dans la deuxième étape, tu parles, c'est le corps qui respire. Et là, tout d'un coup, ça a dépassé quelque chose. Comme si je me retrouvais à l'extérieur, et en ayant la sensation de la globalité du corps. Et après, on passe à la nature ou à la vie. Moi, j'ai retenu vie. Mmh. Et là, l'espace s'est encore agrandi, comme quand on évoque cette notion de souffle de vie. Mmh. Ça devient peu concret, en fait. Mmh. Mais ça dit beaucoup. Mmh. Après, la question qui se pose, après j'ai lâché, Et après, la question que je me suis posée, mais finalement, c'est est-ce que les mots véhiculent aussi des sentiments, des émotions, mais par notre vécu. Et est-ce que mes sensations ne sont pas liées aussi à ça?
Est-ce que les sensations ne sont pas liées aux mots? Mais oui. C'est ça, en fait, la question de conception.
Hein?
Au début était le verbe, par exemple, dans le christianisme, et on va l'explorer beaucoup plus en approfondi sur ces 5 semaines. C'est dans quelle mesure est-ce que nos conceptions influent sur notre expérience? Hein, et les conceptions passant, n'étant pas que formulées par la pensée, mais passant par le verbe, par la conception. Et juste pour savoir, qui est-ce qui, en changeant de perspective, a senti un changement dans sa méditation ou dans son atmosphère intérieure? Est-ce que vous pouvez juste lever la main pour avoir une notion?
Très légèrement.
Ouais. Voilà. C'est pas, merci. C'est pas un exercice facile. C'est certainement pas un exercice facile, mais ça vaut la peine de remarquer. C'est en fait un exercice qui nous permet de remarquer justement que l'approche qu'on a d'une chose, la manière dont on va voir et dont on va s'expliquer une chose, va avoir un impact sur la manière dont on vit cette chose. Et ça, excusez-moi, c'est énorme.